Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons de le prier. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. À toi dont l'honneur est digne, toi qui es digne d'honneur, toi qui es digne de louange, d'adoration, toi qui es digne de gloire, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Mais qu'est-ce que je te donne en réalité? Une vie qui est déjà toute déformée, est transformée, est détruite par le péché. Une vie, Seigneur, qui a vécu dans toutes sortes de choses que tu désapprouves. Je te donne quelque chose qui a déjà été pollué par le péché. Je viens à toi, Seigneur, et je te dis, prends-moi tel que je suis. Mais Seigneur, mon Dieu, mon tel que je suis n'est pas beau, Seigneur. Il n'est pas agréable à voir. Il est mauvais, mauvais par nature. Seigneur, mais si je viens auprès de toi tel que je suis, c'est parce que je ne peux pas me changer moi-même. Je ne peux pas me transformer moi-même. J'ai besoin, Seigneur, que toi tu reformes et tu remodèles cette créature qui t'appartient et qui a été détruite par la rébellion, par la méchanceté, par le péché. Seigneur, qu'ai-je à te présenter, Père, sinon que une nature pécheresse, une nature qui est loin d'être ce que tu désires. Seigneur, Dieu de grâce, et pourtant tu m'acceptes tel que je suis, et tu dis, viens à moi, Père, prends mon cœur, prends ma vie, détruit par le péché, qui comprend pas, qui comprend mal, qui tord tout, qui change tout, qui essaye de toujours excuser le mal, qui essaye de toujours à se cacher et à se justifier plutôt que de s'humilier, qui essaye de s'élever plutôt que de s'abaisser. Père céleste, le travail est grand à faire en moi. Le travail est grand à faire en moi, mais je sais que rien n'est trop grand ni trop difficile pour toi. Seigneur, tout ce que tu demandes, c'est que nous nous livrions à toi tel que nous sommes et que nous te disions humblement, Seigneur, change-moi, rends-moi ton image. Père céleste, nous voulons comprendre ces choses. C'est vrai que ce changement ne se fait pas que de ton côté. Ce changement doit se faire aussi de notre côté, en faisant ce que nous devons faire, en venant à toi, en nous humiliant et en te demandant, Seigneur, que tu agisses, que tu pardonnes, que tu transformes. Père, merci. Et c'est avec cet espoir que nous venons encore écouter ta parole. C'est avec cet espoir que nous désirons encore apprendre, Seigneur, apprendre afin de l'appliquer, d'appliquer ces leçons à nos cœurs et à nos vies. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Prends-les, Seigneur, s'il te plaît. Je ne m'appartiens pas. C'est toi qui m'as créé. Parle-nous maintenant, au nom de Jésus. Depuis passablement déjà, nous essayons de sonder et de voir qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans sa parole, particulièrement dans ses 10 commandements qu'il a donnés au commencement. Mais ces 10 commandements qui sont toujours valables et qui ont gardé leur force jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que Dieu a fait à ajouter à ses commandements, c'est d'ajouter la grâce par-dessus. Et c'est pour cela que ces commandements, au lieu d'être morts pour nous, sont devenus des commandements de grâce, de miséricorde, des commandements qui nous éclairent, qui nous ouvrent les yeux, qui nous font connaître le véritable état dans lequel nous sommes et qui nous fait voir la nécessité de la grâce à laquelle nous nous accrochons par la foi. Alléluia. Mais ces commandements sont encore valables et il est bon de pouvoir encore en parler et voir quel est le critère de Dieu, le standard dans lequel il veut que nous vivions, à quel niveau. J'aimerais lire avec vous maintenant dans l'Épître de Jacques. Épître de Jacques au chapitre 2. Épître de Jacques au chapitre 2 à partir du verset 1er. Là où il est écrit: mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personne votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà une recommandation combien valable aujourd'hui. Vous mêlez votre foi à des considérations de personne. Vous regardez à la personne et vous lui faites des avantages parce qu'elle est de votre tribu, parce que c'est une personne éduquée, parce que c'est une personne riche. Alors vous avez des égards particuliers pour cette personne-là. Mais l'apôtre, connaissant le cœur humain et inspiré par le Saint-Esprit, donne cet avertissement. Ne mêlez pas à des considérations de personne votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites: toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre: toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu ne t'a pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Verset 12. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Donc, tu exerceras la miséricorde et tu ne tomberas pas sous le jugement. Si tu n'exerces pas la miséricorde, eh bien, tu tomberas sous le jugement. Combien de fois nous nous trouvons et nous nous mettons en porte-à-faux avec cette parole de l'Évangile? Et nous faisons des différences, et nous faisons des distinctions entre les personnes, et nous faisons des préférences, toujours par motivation d'un intérêt qu'on pourrait tirer de l'autre, d'un avantage qu'on pourrait avoir de l'autre. Et nous volons, oui, nous volons ce qui doit être donné à l'autre, qui peut-être n'est pas riche, qui peut-être est mal habillé, qui peut-être est un pauvre, mais qui, aux yeux de Dieu, sont égaux à tous. Nous faisons des distinctions et nous nous trouvons en train de porter un jugement. Souvenez-vous, depuis déjà 2 semaines, nous sommes sur ce 8e commandement. Ce 8e commandement qui dit: tu ne voleras point. Je pensais terminer ce dimanche avec toujours ce même sujet, mais au premier culte, je me suis aperçu que je ne pourrais pas terminer encore. Tu ne voleras point. Et combien de fois nous volons l'honneur qui est dû aux pauvres, nous volons le respect qui est dû aux pauvres, nous volons la considération qui est due aux pauvres, à celui qui n'a pas réussi comme nous avons réussi, à celui qui peut-être n'a pas eu les avantages que nous avons eus, à celui qui peut-être est handicapé dans la vie d'une façon ou d'une autre, à celui qui est issu d'une famille de truands, de voleurs, de bandits, et qui ne se sont jamais occupés de leurs enfants, et désormais à cause de ce milieu dans lequel il a grandi, il se trouve sur la route, il se trouve sans aucun bien, sans aucune richesse. Ce n'est pas qu'il l'ait choisi, mais il est là. Mais ceci n'empêche pas qu'il a droit à la dignité autant que celui qui roule dans une grosse voiture, que celui qui s'habille convenablement, de celui qui a un compte en banque. Il est digne de respect, il est digne d'aide, il est digne de secours, il est digne. Et bien souvent, nous faisons des distinctions soit tribales, combien de fois n'ai-je pas vu dans des églises où le pasteur est d'une certaine tribu. Il favorise tous ceux qui sont de sa tribu. Quant aux autres, il leur tombe dessus pour la moindre petite faute. Mais la faute de celui qui est de sa tribu, il tâche de la diminuer et de l'amoindrir. Il tâche de faire comme si ce n'était pas grand-chose qu'une petite erreur de passage. Mais si c'est un homme d'une autre tribu, alors on lui tombe dessus. Et on le sanctionne avec vigueur. Et c'est ainsi qu'on se fait juge et qu'on distingue entre l'un et l'autre. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et chaque jour, alors que le temps passe, nous avons l'occasion de faire miséricorde à celui-ci et à celui-là, à s'arrêter pour parler à celui-ci ou à celui-là, à s'intéresser de celui-ci ou de celui-là. Nous vivons dans des temps absolument inextricables, où bien souvent nous ne savons pas comment faire et comment agir. Nous sommes au milieu d'une société complètement déséquilibrée. Il y a certaines fois, lorsque je parcours la ville de Kinshasa, je m'arrache les cheveux. Tous ces mendiants qui sont partout, en train de tendre la main. Et beaucoup d'entre eux deviennent très agressifs. Très agressifs. Ils veulent, ils deviennent amers et surtout ces estropiés, ces gens qui n'ont pas eu l'avantage d'avoir deux jambes comme il faut, qui se traînent par terre, ils se traînent par terre, et ils n'arrivent même pas à la hauteur de votre pare-brise de votre voiture. Mais ils sont là dans le besoin, ils sont là dans le malheur, ils sont là, et ils ont droit à une dignité, mais personne ne leur reconnaît aucune dignité. Ils deviennent agressifs et amers, et ils regardent tous les autres bien portants comme étant des ennemis. Voilà la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais pouvons-nous donner à chacun de ceux-ci ce dont ils ont besoin pour pouvoir vivre dignement? Peut-être qu'on le fait pour quelques-uns, celui-ci ou celui-là, mais chacun de ces gens qui vous harcèlent, à peine vous sortez pour entrer dans un magasin, qui veulent vous vendre à tout prix leurs marchandises, qui vous prétendent c'est un bon prix patron, et quand vous coupez la moitié, ils coupent encore pour être sûr que vous allez acheter. Ils essayent par tous les moyens, car ils sont pressés à la maison et il n'y a plus rien à manger à la maison ni pour les enfants. Désespérés, ils essayent de vous vendre des disques CD, ça m'arrive souvent. Des disques CD, vous regardez le disque, il est usagé, il est déjà rayé. Non patron, c'est tout neuf, prends, je te demande seulement 500 francs congolais. Eh oui, mais ça c'est déjà utilisé. Non, c'est tout neuf, tu crois que je ne vois pas, non? Dans un pays immensément riche, voilà notre société. Et nous n'arrivons pas, nous, en tant qu'individus, à aider tous les malheureux qui sont dans la ville. Mais qui doit s'occuper d'eux alors? Moi, je vais vous le dire, ce qui doit s'occuper d'eux. C'est tous ceux qui tiennent les rênes des finances, tous ceux qui tiennent les rênes de cet état dans lequel nous sommes, tous ceux qui ont une responsabilité, non pas vis-à-vis d'eux-mêmes, mais vis-à-vis de ceux qu'ils administrent. Toute société qui se respecte doit s'occuper des plus pauvres et des plus malheureux. Toute société qui se respecte doit s'occuper des mendiants et de ceux qui sont dans la rue. Toute société qui se respecte doit trouver un moyen d'une façon ou d'une autre. Dans certains pays, il y a des assistances sociales. Dans certains pays, il y a des allocations familiales. Et il y en a toujours avec ces allocations familiales qui cherchent à profiter d'une façon ou d'une autre. Tu ne voleras point, et quoi qu'on fasse, on trouve toujours des voleurs. Car le cœur de l'homme est complètement pourri par le péché, dans la rébellion. Et l'homme est digne d'une seule chose, à la perdition éternelle et au jugement éternel. Au jugement. Frères et sœurs, si Dieu nous sauve, ce n'est pas à cause de nous. Nous sommes dignes de rien du tout. Si on doit faire l'étalage de tous les péchés qui ont été commis, rien que dans cette salle qui est ici présente, avec tous ceux qui sont là, si on voulait faire un étalage de la vie secrète, soit du passé, soit du présent, de chacun ici, frères et sœurs, il n'y en a pas un qui serait digne d'une petite parcelle de la vie éternelle. Pas un seul. Et moi non plus. Et Dieu ne nous sauve pas à cause de notre excellence. Dieu ne nous sauve pas à cause de nous. Il nous sauve à cause de lui-même. Parce qu'il nous a aimés sur la croix de Golgotha. Parce que son amour s'est manifesté de façon extraordinaire pour nous sur le bois de la croix. Parce qu'il nous a aimés, c'est tout. Il a aimé sa créature, c'est tout. Il n'a pas renié Adam. Il n'a pas rejeté Adam. Il n'a pas rejeté les hommes du passé, ils n'ont pas rejeté, quoi qu'ils soient des pécheurs comme David, oui, comme David, qui a tué pour prendre la femme d'un autre, l'homme qui était selon le cœur de Dieu. Il n'y en a pas un, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent, qui mérite la miséricorde de Dieu. Mais Dieu a choisi de faire miséricorde, c'est tout, à cause de lui-même. Et quand il sauve un homme ou une femme de notre génération, sans passer parler de ceux du passé, quand il les sauve, ce n'est pas à cause de lui-même. Ce n'est pas à cause de nous-mêmes, pardon. Mais c'est à cause de Dieu lui-même. En sauvant un homme qui est digne de l'enfer, qui est digne de la perdition, Dieu manifeste sa gloire. C'est tout. Il manifeste sa gloire. C'est pourquoi il ne supporte pas qu'aucun homme ne se glorifie devant lui. L'orgueil, Dieu le déteste. Et il n'y a rien qui empêche plus un homme d'avancer, un homme d'avoir la grâce de Dieu, un homme de prospérer, un homme de grandir en Dieu, spirituellement parlant, que l'orgueil. L'orgueil, c'est l'obstacle majeur. Majeur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un orgueilleux peut prier, jamais Dieu va lui répondre. Dieu lui résiste. Celui qui est humble et qui est brisé au pied de la croix et qui s'humilie au pied de la croix, alors il répond à ses prières. Dieu vient à son secours. Peut-être que celui-là qui est humble n'est pas meilleur que l'autre. Peut-être qu'il a fait des choses même plus mauvaises que l'autre. Mais Dieu l'entend, car il est brisé au pied de la croix et il s'humilie. C'est comme le publicain qui se frappait la poitrine et qui, se voyant, connaissant dans le fond de son cœur ce qu'il était en réalité, baissait la tête et disait, « Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il était humilié, il était brisé, il voyait son état et Dieu a eu miséricorde pour lui. Mais il a résisté aux pharisiens qui lèvent la tête et qui disent, « Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis meilleur que l'autre, que les autres. Je donne la dîme, je donne aux pauvres et aux malheureux, et je fais mes prières, et je donne ceci et je donne cela, et je fais ceci et je fais cela. » Celui-là n'a pas été justifié à cause de son orgueil. Il aurait dû dire, « Seigneur, c'est vrai que je te sers, mais je te sers bien mal encore. C'est vrai que je te donne, Seigneur, mais tout t'appartient, Seigneur, rien n'est à moi. Seigneur, c'est vrai que je fais des bonnes œuvres, mais n'est-ce pas ce que je dois faire et un devoir? En quoi puis-je me glorifier, Seigneur? Je ne peux faire qu'appel à ta grâce. Alors, Dieu l'aurait béni. Arrêtons de nous vanter et de prendre ce qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire la gloire de Dieu ne nous appartient pas. Nous n'avons pas une parcelle de cette gloire. Seulement Dieu veut se glorifier à travers nous. Et c'est déjà un immense privilège. Il ne nous sauve pas parce que nous méritons quoi que ce soit, mais il nous sauve à cause de lui-même, à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de faillite. Si ce sacrifice a été fait pour le salut des hommes, il y aura des hommes sauvés. Ne faisons pas exception des personnes. Ne regardons pas à celui-ci d'un œil favorable. À cause de ce qu'il a fait de grandes études, à cause de ce qu'il a beaucoup de connaissances, à cause de ses richesses, à cause de ses biens, à cause de ses titres. Et que le pauvre, mal habillé, mal instruit, pas toujours propre sur lui, nous le méprisions parce que, à cause de cela, non, il a la place. Il a une chaise à côté du riche. Voilà. À côté du riche. Dieu ne nous a pas établis comme juges, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Nous avons tellement l'habitude d'agir comme nous le pensons, plutôt que de comme Dieu pense. Et nous avons besoin de réformer notre façon de voir et de comprendre. Tu ne voleras point, c'est toujours valable. Tu ne dois pas voler la dignité du pauvre. Tu ne dois pas voler, avoir moins de considération pour celui qui est là malheureux et qui supplie pour quelque chose, quelques miettes. C'est vrai que cela devient détestable, c'est vrai, mais toute notre société est malade et notre société ne fait pas son devoir en tant que société, ne fait pas son devoir. Ceux qui décident n'y pensent pas. Trop souvent, ils pensent trop plus à eux-mêmes et à ce qu'ils pourront tirer pour eux-mêmes. Ce commandement s'adresse aussi aux riches qui sont dans l'opulence, lesquels ont amassé de la richesse personnelle. Je ne parle pas de ces immenses sommes d'argent qu'une société peut avoir, qui appartient à la société, et qui n'est pas un bien personnel, mais qui est un bien de la société pour faire marcher la société afin de produire et que ces produits aident la vie de chacun. Je ne parle pas de cela, mais je parle de la richesse personnelle, accumulée. Bien souvent, nous voyons dans le monde qui nous entoure que les riches savent se protéger par des lois qui les favorisent. Et ils savent trouver des juristes bien payés qui sauront manipuler les lois à leur avantage. Tandis que le pauvre, lui, il n'a rien pour défendre sa cause. Et il ne peut payer un juriste pour défendre sa cause et son droit. Ça, c'est du vol. Il ne peut y avoir à tout prix intérêt. Intérêt à n'importe quel prix. Malheureusement, c'est la philosophie de notre monde d'aujourd'hui. Intérêt, croissance économique à n'importe quel prix. Eh bien, non, mes frères. Cette croissance économique à n'importe quel prix porte préjudice à celui qui ne possède pas. Et on bâtit sur la pauvreté de l'autre. On bâtit et on accumule en appauvrissant le pauvre. Ce n'est pas intérêt à n'importe quel prix. Ce n'est pas intérêt de n'importe quelle façon. Ce n'est pas croissance économique au détriment de l'autre. Non! Ça, c'est du vol. La richesse du riche doit contribuer, au contraire, au mieux-être du pauvre. Dieu n'est pas contre la richesse. Il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'on est riche, parce que les gens, il y en a qui sont riches, eh bien, forcément, ils sont mauvais. Ce n'est pas vrai. Plût à Dieu qu'il y ait beaucoup d'enfants de Dieu qui soient riches et que par leur richesse, ils sachent aider le pauvre et donner, procurer de l'emploi aux pauvres, procurer du travail aux pauvres, aider le pauvre à sortir de sa pauvreté, à sortir de la boue dans laquelle il se trouve. Dieu bénira celui-là. Dieu n'est pas contre la richesse, mais il est contre la cupidité, qui est une sorte d'idolâtrie. Il est contre l'oppression par l'argent. Il est contre celui qui veut tout acheter, même la conscience des autres. Vous connaissez ces gens qui ont des moyens et qui, par leurs moyens importants, cherchent à acheter la conscience des autres. Sachez que si vous vous laissez acheter la conscience par quelqu'un pour une cause qui est mauvaise, vous devenez un esclave et participant au péché de cet homme-là. Même s'il vous a donné beaucoup d'argent pour cela, pour acheter votre signature, pour acheter votre conscience, pour vous faire fermer les yeux, vous obliger à fermer les yeux contre ces magouilles et ces détournements. Vous devenez complice et vous devenez voleur comme il est voleur. Ah, mais j'en avais besoin. Bien sûr. Il te le demande justement parce que tu en avais besoin, donc tu es vulnérable. Mais frère, sœur, que ta conscience soit plus forte. Que ta conscience soit plus forte. Sache dire non quand il faut dire non, même au prix de ta place et de ton travail. Et il y a des hommes ici que je connais. Il y en a certains qui étaient au premier culte, qui aujourd'hui sont sans travail. Tout simplement pour matière de conscience dans le travail. Des hommes qualifiés, des hommes avec des bonnes places, des hommes avec une grande intelligence, qui ont fait toutes les universités, qui peuvent aider le pays. Mais ils ont refusé de rentrer dans les magouilles des autres. Et les autres se sont sentis mal. Et on a cherché un moyen par lequel on puisse les accuser faussement pour les suspendre. Et ils sont sans salaire depuis des mois. Voilà où nous en sommes. Voleurs! Mais cet homme qui a résisté, ou ces hommes qui ont résisté de la sorte, ils ont gardé une conscience pure. Et c'est plus que tout l'or, c'est plus que tout l'argent, frères et sœurs, que l'on peut donner dans ce monde. La cupidité devient facilement un vol. Lorsqu'on est cupide, on devient vite voleur, pour s'attribuer ce qui ne vous appartient pas. Tu ne commettras pas de vol. C'est comme ces gens, d'après ce qu'on m'a raconté, qui travaillent pour des sociétés d'État. Sociétés d'État qui a beaucoup de véhicules de tout genre, et on utilise pour le service un de ces véhicules. Mais voilà que celui qui l'utilise a grandement envie de le posséder lui-même, comme il n'a pas de véhicule pour lui-même. Alors, il s'arrange à la mettre en panne. Il retire quelques pièces maîtresses, pièces clés du moteur quelque part. Il la fait remorquer jusqu'au garage de la société d'État, et s'arrange avec le mécanicien, laisse ça dans un coin. Tu auras ta peur de ta part du reste, parce que ça se paye tout ça, n'est-ce pas? Et la voiture est là pendant quelques mois, elle se couvre de poussière et tout ça. Et bientôt, on veut liquider le garage, il y a trop de voitures qui sont là, qui ne marchent pas et tout ça. On demande un rapport. Alors sur le rapport, le mécanicien dit, cette voiture est déclassée, elle ne vaut plus rien. Elle est déclassée, du reste si vous la voyez, du reste elle est couverte de poussière, peut-être qu'on a mis encore de la poussière dessus. Et puis, et on fait un rapport, on décide de vendre aux enchères à qui voudra. Mais comme ça vaut rien, ça vaut rien. Juste peut-être un peu les pneus. Alors, le prix le plus bas, alors on s'est arrangé. Dis donc, c'est moi qui la prends, hein. Alors, attention, adjugé pour moi au premier prix. Il ramasse la voiture, il la fait remorquer. Quelques jours plus tard, vous la voyez brillante, qui marche dans
ces deux derniers dimanches. Mais il convient à ce que nous stigmatisions la façon de faire des gens et le pourquoi et le comment de la ruine morale et spirituelle et politique de notre pays. Car ces choses se payent. Ces choses se payent. La cupidité devient facilement un vol. Cette parole s'adresse aussi à ceux qui amassent de la richesse et accumulent des biens par n'importe quel moyen. Et ce que je viens de vous dire, c'est accumuler des biens par n'importe quel moyen. Mais sachez que quand vous vous enrichissez de la sorte, vous appauvrissez quelqu'un d'autre. Et ce message et ce commandement s'adresse aussi aux profiteurs de guerre. Oh oui, la guerre profite à des gens. À des gens, à toutes sortes de gens. Tu ne voleras point le bien de ton frère. Tu ne voleras point la richesse de ton frère. Et puis certains ont plutôt avantage à faire durer la guerre parce que ceci leur permet de s'enrichir. De s'enrichir avec les armes, de s'enrichir qu'ils vendent, de s'enrichir avec des avantages qu'ils tirent ici ou là. Mais sache que cet enrichissement ne portera aucun bonheur dans ta vie et que cette richesse te passera entre les doigts avant que tu puisses t'en apercevoir et que tu ne seras jamais heureux avec la richesse qui vient du sang versé des autres. Les petits, les pauvres, eux, ils sont jetés sur les routes. Ils sont jetés sur les routes. Ils sont affamés le long des chemins. Ils cherchent à se réfugier quelque part après des journées de marche sous le soleil avec peu de nourriture. En portant leurs enfants sur le dos. Ils cheminent sur les routes. Ils s'amaigrissent d'un jour à l'autre. La maladie les atteint. Et ils espèrent trouver un peu de calme quelque part. Et ce quelque part, c'est quoi? Ce sont des immenses camps de réfugiés. Et est-on heureux là? Non, il n'y a pas de bonheur. Des camps de réfugiés. Et on déclenche des guerres. Et on déclenche des génocides, et on déclenche toutes sortes de choses, des guerres ethniques et autres, des guerres du diamant ou de l'or ou du pétrole ou que sais-je encore. Et après, quand il y a la misère qui atteint le pays et la famine, on dit il faut que la communauté internationale vienne à notre aide. Quelle moquerie! Au milieu d'un pays où il y a de tant de richesses et de bienfaits, au milieu d'un pays où la terre est riche. Quand je pense à certains pays du Sahel, aucune richesse dans le sous-sol, que du sable et du sable, quelques maigres troupeaux de vaches et de chèvres, que des paysans mènent ici et là pour manger le peu d'herbe ou de feuilles qui poussent par hasard ici et là. Pas de richesse dans le sous-sol, rien. Mais ici, nous avons tout. Il y a peu de temps de cela, quelques mois de cela, je suis allé à Kikwit. J'ai vu que la population était terriblement malheureuse et pauvre. Mais j'ai vu que tout le monde mangeait à sa faim. Pourquoi? La terre est généreuse. Tout y pousse. Et tout le monde peut manger à sa faim. Nous avons un pays riche. Nous avons un pays où il y a tout. Mais où? Les hommes sont malheureux et pauvres. À cause de quoi? À cause du vol. Voilà pourquoi. Tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Et la guerre profite à certains. Le désordre profite à d'autres. On profite de tout cela. Frères et sœurs, ce n'est pas qu'à cause de la guerre que nous sommes pauvres aujourd'hui. Nous avons connu des temps où il n'y avait pas de guerre et nous étions tout aussi pauvres, tout aussi malheureux. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas décidés à marcher dans la droiture, dans la vérité, ne sont pas décidés à considérer que le bien public ne leur appartient pas. Il est écrit, tu ne voleras point. Jusqu'où nous irons-nous de cette façon? Jusqu'où? Oh, peut-être que ces discours ne sont pas tellement intéressants pour d'autres. Peut-être que certains sont dérangés. Qui est-il cet étranger? Eh bien, lisez dans la parole de Dieu ce que Dieu dit à son peuple concernant les étrangers. Tu les considéreras comme tes frères. Il y a des mauvais étrangers, mais il y a des bons étrangers. Et l'étranger qui vous parle ici, c'est un étranger qui a été transformé par la grâce de Dieu et qui refuse de fermer sa bouche. Il parlera. Il n'a jamais été... Il n'a jamais été complice dans aucune politique quelconque. Il n'a jamais été promoteur d'une idéologie humaine quelconque. Il n'a jamais prêché du haut de cette estrade un idéalisme politique quelconque ou la préférence d'un homme politique quelconque. Il n'a fait qu'une chose, c'est de prêcher la parole de Dieu et le chemin qui mène à la vie. Et la vie, elle sera donnée à celui qui marchera en obéissance avec la parole de Dieu. Oui, je suis votre frère, quoique vous disiez que je suis un étranger. Je suis votre frère, et votre frère vous aime assez pour vous dire la vérité. Ne vendez pas votre conscience. Ne vendez pas votre liberté. Ne soyez pas profiteurs du malheur des autres. Ne soyez pas des profiteurs de guerre et de sang d'innocents versés pour rien. Ne remplissez pas votre bouche de vocabulaire et d'expressions vides où il n'y a pas de réalité. À ceux qui exploitent les biens des autres et ne leur laissent qu'un mince profit, cette parole, elle est pour eux. Dans tous les âges, malheureusement, il y a eu ce sale système de l'esclavage. Les Romains ont fait l'esclavage. Les Grecs ont fait l'esclavage. Les Gaulois avaient des esclaves. Les Helvètes avaient des esclaves. Les Goths avaient des esclaves. Il y a eu l'esclave des Noirs et la traite des Noirs pour les plantations de ceux qui voulaient se faire de l'argent sur la sueur et le sang des autres. Tous les âges ont connu des esclaves. Israël était même esclave en Égypte pendant 400 ans. Esclave en Égypte pendant 400 ans. L'esclavage, c'est l'exploitation de l'autre. L'exploitation de l'autre et l'esclavage n'est pas terminé jusqu'à aujourd'hui. Il y a toutes sortes de façons d'être esclave. Lorsque vous sous-payez votre employé, vous en faites un esclave. Quand je pense que dans notre société, pardonnez-moi mes frères, mais étant Congolais, je dis tout ce qui se passe dans notre société. Quand je pense que dans notre société, vous avez des hommes qui ont étudié des années, qui ont passé à travers toute l'université, qui ont gagné leur diplôme à la sueur de leur front. Ils sont allés dans des grandes universités à l'extérieur du pays et ils ont acquis un papier qui leur donne droit d'avoir des places particulières dans des domaines particuliers. Je ne veux pas être spécifique ici. Dans des domaines particuliers et qui ont un salaire de misère, 2000 francs par mois. Vous m'entendez? 2200 francs par mois. Et ça, c'est encore le premier qui est à la tête. Mais ceux qui sont en dessous ont 1200. Mais écoutez, même mon sentinelle à la maison gagne mieux que ça. Et si ces hommes ne connaissent pas Dieu, forcément qu'ils vont chercher à arrondir leur moi. Vous croyez pas? Et si vous voyez un médecin qui ne gagne que l'équivalence de $80 par mois, alors qu'il la gagnerait ailleurs $10,000 pour un chirurgien, ne va-t-il pas essayer de se faire un meilleur moi? Et nous disons, oh, il faut que ça passe la communauté internationale. Quoi donc? Ce n'est pas la communauté internationale, c'est vous-même. Vous avez tout ici. Nous avons tout ici. L'or, l'argent, les diamants, le pétrole, tout, le bois, tout. Et la terre qui produit en abondance. Pourquoi cela? Pourquoi le péché et le péché, rien que le péché? Et vous n'en sortirez pas tant que vous serez des voleurs. J'ai l'impression certaines fois de prêcher dans le désert. Dans le désert. Jean-Baptiste prêchait dans le désert, a-t-il dit, le désert de Judée. Pourtant, Jésus a dit de lui, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que lui. Pourquoi? Pourtant, Jean-Baptiste n'avait pas une robe ou un habit ecclésiastique. Il n'avait pas de diplôme de théologie avec un grand P, T, de l'université. Il était habillé de poils de chameau avec une ceinture de cuir au rein. Et il ne mangeait pas dans les meilleurs restaurants. Il mangeait des sauterelles séchées au soleil. Voilà ce qu'il mangeait. Jean-Baptiste, vous m'entendez? Qu'est-ce qui a fait la grandeur de l'homme? Le message qu'il a reçu et la fidélité au message reçu. La fidélité au message reçu. Il est dit, tout ce que Jean-Baptiste prêchait était vrai. Ah. Et pourtant, il apostrophait les pharisiens, les scribes. Il leur disait, vous êtes des races de vipères. Qui vous a appelé à produire les fruits de la... Produisez d'abord les fruits de la repentance. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il disait ça aux dignitaires de la religion. À ceux qui ont tous les diplômes, tous les degrés, toute la sagesse, les robes ecclésiastiques et la liturgie. Il leur disait, vous êtes des races de vipères. Voilà ce qu'il leur disait. Pourquoi? Vous volez au peuple ce qui appartient au peuple. Et qu'est-ce qui appartient au peuple? La vraie parole de Dieu. Et ça, vous la falsifiez. Pourquoi? Parce que vous êtes incapable d'y obéir vous-même. Et vous rendez la porte du royaume des cieux si étroite que personne ne peut rentrer. Hypocrite, leur a-t-il dit. Produisez d'abord les fruits de la repentance. Jean-Baptiste était grand. C'est Dieu qui l'a dit. Ne soyons pas des exploiteurs de l'autre. Non. Soyons des hommes justes, vrais, honnêtes. Dans Jérémie au chapitre 17, verset 11, il est dit. Jérémie 17, 11. Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus. Vous voyez, une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus. Jérémie 17, 11. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé, un fou, quoi. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustes. Et au milieu de ses jours, il doit les quitter. Au milieu de ses jours, c'est-à-dire que tous ses jours ne sont pas accomplis. Mais Dieu a mis un stop au nombre de ses jours. Parce que Dieu a dit, c'est assez maintenant. Au milieu de ses jours. Tu veux vivre longtemps? Alors vis selon Dieu. Vis selon Dieu. Tu veux vivre de nombreuses années en bonne santé? Tu veux vivre de nombreuses années avec ta famille, au milieu de ton pays, avec ta petite propriété? Eh bien, écoute Dieu et fais ce qu'il dit. Parce que Dieu dit que si tu prends le bien des autres, comme une perdrix qui couvre les œufs qu'elle n'a pas pondus, au milieu de tes jours, tu dois tout quitter. C'est-à-dire,
tes jours ne sont pas finis. Dieu peut-être t'a donné 80 ans. À 40 ans, tu vas déjà partir. Tu comprends? Dieu peut-être, quand tu es né, avait décidé de te donner 90 ans. Mais il va couper la moitié. Et peut-être moins que la moitié. Parce que Dieu va dire, c'est assez. Tu ne peux pas. Et je ne veux pas que tu continues à exploiter l'autre. Pour t'enrichir égoïstement. Il en est de même pour ceux qui sous-payent leurs employés ou qui ne les payent pas du tout alors qu'ils pourraient leur donner un salaire décent. Je me souviens autrefois, je parle d'années en arrière, je ne veux pas parler de maintenant, à vous de voir si ça se fait encore maintenant, mais je me souviens autrefois, quand on parle d'autrefois, on parle après, quand il y a eu ces événements-là, Je me souviens de gens qui venaient ici dans l'église. Belle voiture, beaux vêtements, tout ça. Et un jour, j'ai prêché. C'était un dimanche. Je prêchais particulièrement sur ce principe-là qu'on doit payer ses employés et leur donner un salaire juste. Et la parole était très forte. Et la parole était très incisive. Une quantité de ces grands boinas sont allés à la maison et ils ont réglé les arriérés de paiement de leurs sentinelles. Et à cette époque-là, il y avait un des fils du grand boinas qui était à la tête du pays. Et il venait ici. Et des ennemis ont porté plainte contre nous en disant qu'on était en train de troubler le bon ordre de la société, et etc. Et quand ils se sont plaints, ces gens soi-disant des hommes spirituels et des hommes de Dieu, ce fils, il était là. Il a dit, non, papa, ce que ces gens font, c'est bien. Parce qu'ils apportent des principes que nous avons violés. Je le sais, parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, un témoin qui venait ici et qui nous l'a rapporté. Combien d'entre nous pouvons payer de façon décente notre sentinelle à la maison? Et nous le payons d'une façon misérable, c'est pas ça? Misérable, et encore, on est toujours en retard ou on ne le paye pas. Ou on essaie à racler sur son salaire, on essaie à racler sur les factures d'un service reçu à la maison, et on essaie à le faire descendre au-delà de ce qui est convenable. Marchander, c'est normal. On sait que c'est le système. On demande toujours à peu près ceci, et celui qui demande ça, il sait que le réel prix, c'est ça. Et celui qui l'a payé, il sait que le réel prix, c'est ça. Alors, on discute là-dessus, et peut-être qu'on arrivera juste entre deux. Ça va. Mais il y en a, au contraire, qui cherchent à tout racler, à tel point que l'autre n'a même plus de bénéfice pour lui-même. Anormal! Voleur! La parole de Dieu reconnaît le droit, écoutez bien, elle reconnaît le droit à quiconque d'avoir des possessions. Elle reconnaît le droit à quiconque d'avoir des propriétés. Elle reconnaît le droit à quiconque de posséder des biens. La parole de Dieu n'interdit pas et ce n'est pas un péché que d'avoir de la propriété, des biens. Ce n'est pas un péché que d'avoir plus que d'autres. Il y en a qui pensent que parce que certains ont plus que d'autres, c'est mal. Non! Et je demande à Dieu que beaucoup ici, qui sont ici, deviennent des hommes ou des femmes qu'on appelle riches. Et la parole de Dieu ne l'interdit pas, mais elle avertit contre la cupidité. Elle a possession démesurée de biens personnels au détriment des autres. Ah, ça c'est une différence. Et comprenez bien, je parle des biens personnels. Je ne parle pas du bien qui forme l'ensemble de la société et qui fait marcher la fausse société pour produire et pouvoir procurer ce qui est nécessaire aux autres. Je ne parle pas de cela, mais je parle de la fortune personnelle. L'accumulation exagérée et le gaspillage, car souvent On a vu cela, le gaspillage, avec l'étalage de ses richesses, alors qu'il y a la pauvreté à côté, est un péché. Si tu es riche, sois discret. Sois discret. Ne fais pas l'étalage pour te vanter, pour montrer aux autres. L'étalage pour que les autres voient, ce n'est pas l'argent qui donne l'importance à l'homme. Non! Mais il y en a qui ont exagéré. Ils ont gaspillé. Ils se sont vantés dans leur richesse. Et autour d'eux, les pauvres malheureux les regardent presque avec admiration, mais pleins de morgue, ils les regardent de leur hauteur et les méprisent. L'homme qui est fait comme toi et qui a droit à l'honneur et au respect comme toi, le malheureux. Dans Ésaïe 5, 8, il est dit, « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place dans le pays. » Ah! Malheur! On a 3 maisons, on en veut 4. On a 4 maisons, on en veut 10. On a 10 maisons, on en veut 15. On a 15 maisons, on en veut 20. On a un terrain, on en veut 2. On a 2 terrains, on en veut 4. On a 4 terrains, on en veut 8. On a 8 terrains, on en veut 16. C'est pas ça? Et celui qui veut avoir un terrain n'arrive pas à trouver, parce que tout ce qu'il trouve est trop cher. Les riches ont fait monter les prix, c'est pas vrai? L'exploitation de l'autre, c'est exactement ce qui s'est passé en Amérique du Sud. C'est la raison pour laquelle il y a eu tellement de guerres et de révolutions en Amérique du Sud. Il y avait des gros riches, propriétaires terriens, qui possédaient entre 3, 4 ou 5 familles, presque le pays en entier, des milliers d'hectares, vous m'entendez? Ils avaient tout ce qu'il fallait dans leur maison, tous les serviteurs qu'ils voulaient. Ils avaient des avions, ils avaient des hélicoptères, ils allaient visiter leur troupeau de bétail avec l'hélicoptère. Mais rien pour celui qui est pauvre. Rien. À tel point que tout le monde s'est soulevé. On est rentré dans le communisme, dans toutes sortes de doctrines inimaginables. On a pris les armes pour détruire, etc., etc. Et tout le pays a été détruit. Malheur, dit la parole de Dieu, à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Ceux-là sont des voleurs. Pourquoi toi, tu as droit à 20 terrains à une quarantaine de maisons et que l'autre n'a même pas le droit d'avoir une maison ou un petit terrain pour mettre sa maison. Le droit à la propriété est un privilège qui a été très mal utilisé et ceci a permis à certains d'accumuler des fortunes personnelles immenses en appauvrissant le pauvre. Quand tu appauvris le pauvre, par ta richesse, tu pèches. Ta richesse doit servir à l'enrichissement du pauvre. Il y a toutes sortes de vols déguisés dans notre génération. De profits déguisés et illicites. Il semble, écoutez bien, il semble que le droit à la propriété prend le dessus sur le droit de l'homme. C'est de l'injustice. On parle beaucoup du droit de l'homme lorsque ces gens sont battus, mis en prison pour des idéaux politiques ou autres, pour quelque chose de particulier, et ils souffrent à cause de cela. Mais personne ne parle du droit de l'homme quant à la propriété. Et vous avez des gens qui sont super, superment riches, mais par leur richesse, ils appauvrissent le pauvre. Où est le droit de l'homme là? Qui c'est qui le défend? Dans Proverbe 14, 34, il est dit, la justice, c'est-à-dire faire ce qui est juste, faire ce qui est droit, élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe 16, 8, il est dit, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. La richesse donne du pouvoir qui est souvent mal utilisé à des fins égoïstes. La communauté d'Israël a cherché à empêcher la distribution anarchique de la richesse. Elle a voulu régler la possession des biens. Et quand je parle des biens, c'est des biens personnels. La loi de l'Alliance demandait que la richesse, le riche, n'agisse pas avec violence, avec dédain, avec injustice envers le faible. Ils devaient se souvenir, et chaque fois Dieu le rappelle, « Souvenez-vous d'où vous venez. Vous étiez tous esclaves en Égypte, et vous avez été délivrés par la puissance de Dieu. » Souvenez-vous, vous étiez esclaves en Égypte, et je vous ai sorti de la maison de servitude. Alors, vous avez connu ce que c'était que d'être étranger. Vous avez connu ce que c'était que d'être oppressé. Vous avez connu la condition de la pauvreté et de l'esclavage. Maintenant, souvenez-vous de cela et n'asservissez pas vos frères. Voilà ce que disait Dieu. Nous sommes tous assaillis par les tentations. Quand nous sommes libérés de la tentation de la pratique du vol sous n'importe quelle forme que ce soit, nous sommes alors capables de regarder les gens à cause de ce qu'ils sont et non plus à cause de ce qu'ils ont. Celui qui est cupide, celui qui veut s'attribuer la richesse à n'importe quel prix, regardera le riche avec un autre œil. À cause de ce qu'ils ont, et non pas à cause de ce qu'ils sont. Ce n'est pas la possession de beaucoup de biens qui donne de la valeur à un homme. Ce qui donne de la valeur à un homme, c'est son caractère, qu'il soit pauvre ou riche. C'est son caractère, son intégrité, son sens de la justice, de ce qui est bien et de ce qui est mal, en faisant ce qui est juste et droit. Sa droiture lui donne un caractère dans les affaires et dans tout ce qu'il fait et dans ses rapports avec les autres. C'est un homme patient, c'est un homme humble, c'est un homme rempli de douceur, c'est un homme stable, c'est un homme consciencieux, c'est un homme solide. Ce n'est pas l'argent qui donne la valeur à l'homme, c'est son caractère. La fascination cupide envers tout ce qui fait partie du monde matériel peut devenir une tentation insurmontable, accompagnée d'une envie qui ronge celui qui en est victime jusqu'à ce qu'il possède ce que l'autre possède. Il est rongé. Il faut que j'aie ce véhicule. Il faut que j'aie cette chaîne de musique de haute fidélité. Il faut que j'aie cette caméra vidéo. Il faut que je possède cette maison. Il faut que je possède cette femme. Ça le ronge. Et pour cela, il va voler. Fascination cupide. Envie qui le ronge. Pour satisfaire ses impulsions, alors il vole. Nous devons veiller à ne pas être possédés par les choses. Nous possédons les choses, mais les choses ne nous possèdent pas. J'ai béni le Seigneur lorsqu'il y avait ce problème que nous connaissons tous avec ce diamant d'une grande valeur. Beaucoup de ces hommes qui avaient investi dans cet argent se faisaient un souci monstre, pleuraient, étaient malades et tout. Mais ceux qui ont cru dans le Seigneur ont dit, Seigneur, c'est entre tes mains. Moi, je dors. Et je suis en paix. Amen. Ça, c'est l'attitude des vrais enfants de Dieu. À tel point que le témoignage de ceux qui étaient fidèles a touché les autres. Mais comment ça se fait, toi, tu as l'air de tout encaisser comme ça sans qu'on le voit. Et puis quoi? Ça, c'est une pierre. Il y en a combien d'autres qui sont dans la terre, qui restent à être découvertes? Tout appartient à Dieu, aussi bien cette pierre que les autres. Moi, j'ai la paix. Alléluia. Voilà l'attitude du véritable enfant de Dieu. Mais quand on met tout son cœur dans ces choses-là, on devient malheureux quand on les perd. C'est pas vrai? On en devient malade quand on les perd. On en devient malade quand on n'a plus rien entre les mains de ces choses qui ne sont que poussière et qui passeront. La Bible nous dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Qu'est-ce que tu amasses là-haut? Dis-moi un peu. Vas-tu trouver quelque chose? La seule valeur qui restera, c'est celle que tu as mis là-haut. Car toutes les valeurs de la terre disparaîtront. Ne vous laissez pas posséder par les choses. Si Dieu vous permet d'en... Les techniques de subtiliser la marchandise sont multiples et presque indétectables. On place partout des caméras, n'est-ce pas, avec des gens qui sont là sur des écrans pour surveiller le magasin. Mais on compte toujours avec des pertes de certains pourcentages dans toutes ces grandes surfaces. Ici, il y en a quelques-uns. En Europe, ils sont bien plus grands, bien sûr. Et il n'y a pas moins de voleurs. Dans bien des domaines aujourd'hui, on compte sur l'honneur des gens et sur l'honnêteté des gens, dans bien des domaines, comme dans ces grands magasins ou ailleurs. On pense et on assume que les gens savent qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent payer. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, plus personne qui vérifie pour les tickets lorsqu'on prend le métro à Paris, par exemple. On tire le métro, le ticket à une machine automatique, vous mettez ça dans la fente d'une autre machine automatique qui annule le ticket et vous passez. On présume que les gens seront honnêtes. Eh oui, mais la malhonnêteté gagne du terrain partout. C'est pour ça que quand on ramasse quelqu'un qui a passé sans payer son ticket, il le prend sur le dos et c'est bien fait. Mais tous ces magouilleurs qui rentrent dans les foula-foula sans payer. Le cœur de l'homme, où qu'il soit, c'est la même chose. Le besoin ou la pauvreté ne justifie jamais le vol. Vous ne pouvez justifier votre vol par votre pauvreté et votre besoin. Jamais. Le voleur ne peut jamais justifier son acte. L'honnêteté en toute chose, c'est ce que notre foi chrétienne défend. Si un chrétien vole, il renie sa foi. Tu n'es plus un chrétien si tu voles, tu m'entends? Tu n'es plus un chrétien, tu l'as renié ta foi. Il y a encore le vol de l'intangible. Peut-être que tu ne voles pas des choses matérielles, mais tu voles le temps que tu dois donner à ton patron. Tu fais exprès traîner le travail pour avoir un avantage pendant une plus longue période de temps. Tu as un contrat pour faire un travail et ce contrat devrait être fait dans tant de temps. Mais maintenant, tu traînes pour que ça soit plus long et que tu ramasses plus d'argent. Voleur! Tu dois 7 à 8 heures de travail à ton patron, de travail par jour ouvrable. Tu le dois, mais tu fais que 3 ou 5 heures. Au maximum, tu commences tard, tu finis tôt, tu as toujours des excuses, ma mère était malade, j'ai dû aller à l'hôpital, menteur. Tu fais acte de présence, mais tu ne fais rien d'autre. Il y a encore le vol de la bonne réputation, par jalousie, tu étouffes de jalousie. Parce que l'autre a un meilleur salaire, une meilleure position. Que sais-je? Tu cherches à le tuer, à le démolir, alors qu'il est intègre et qu'il est droit et qu'il est juste. Tu jettes du discrédit sur sa personnalité, sur sa justice, sur sa vérité. Et le doute est jeté sur lui et sur sa personne. Tu es un voleur. Tu demandes des loyers et des garanties locatives exagérées, au-delà du nécessaire, cherchant à t'enrichir sur le besoin de l'autre. L'autre doit avoir un logement pour lui et pour sa femme. Il a un petit salaire. Mais ta garantie locative est outrageante. Et le loyer est au-delà. Et tu te montres très dur et intraitable parce que tu sais qu'il en a besoin.
Voleur. L'exploitation des autres à leurs dépens est un vol.
La justice et l'honnêteté en toutes choses est l'expression de la véritable foi. Il y a quelque chose de fondamentalement faux dans la foi d'une personne qui sert Dieu le dimanche et qui, dans la semaine, est malhonnête, incompatible. Il y a une relation vitale entre la foi et l'éthique, entre ce qu'une personne croit et ce qu'une personne fait et vit. Il est impossible de voler sans en payer le prix un jour. Tu ne vas pas le payer aujourd'hui, mais demain tu le payeras. Et demain tu te verras dans la misère, tu te verras dans le besoin, tu te verras mendiant, alors que tu avais tant de richesses. Mais ces richesses ne profitent pas. Tu ne voleras point. Ce commandement est nécessaire et il est le fondement de la société que Dieu nous appelle à former. Et si nous rejetons Dieu, nous rejetterons tous ces principes-là d'éthique, de droiture, de justice, de vérité. Ne soyez pas jaloux de celui qui est riche à vos yeux. Ne soyez pas envieux de celui qui possède. Leur Dieu, s'ils craignent le Seigneur, c'est ton Dieu aussi. Il les fait prospérer, il te fera prospérer si tu bannis la jalousie et l'orgueil de ton cœur. Et si tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, alors tu prospéreras. Alors on pourra dire, l'église de la Borne, c'est une église riche. Si l'église de la Borne est une église riche, l'église de la Borne pourra donner beaucoup plus. Et pourra finir ses projets. Des projets qui traînent depuis tellement longtemps et qui avancent si difficilement. Frères et sœurs, je n'ai pas épuisé le sujet, mais nous allons nous arrêter ici. Il y a suffisamment de réflexion pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et à nous soumettre. Père, tu nous as parlé encore. Merci pour ta patience et merci pour ton amour. Tu nous as parlé encore, Seigneur. Et cette parole qui, peut-être, certaines fois est dure, elle est quand même vraie, Seigneur. Nous le reconnaissons et nous l'admettons. Nous sommes dans un pays immensément riche et nous tous, nous sommes pauvres et malheureux, avec des salaires misérables. En essayant de pouvoir survivre de façon ou d'autre, Père, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons péché devant toi. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous ne prospérons pas. Mais donne-nous à notre niveau, au niveau de notre Église, apporter un témoignage vrai, que notre foi soit démontrée par la justice, par la vérité, par l'intégrité, par l'amour du prochain, par le respect du prochain. Père, nous avons besoin de ta grâce. Veuille nous corriger encore, Seigneur. Ne te lasse pas avec nous. Ne te lasse pas, Seigneur. Mais parle-nous encore et fais-nous comprendre ces choses. Nous sommes si durs à les comprendre, si résistants. Brise nos cœurs, Seigneur. Et aide-nous à marcher dans la vérité et la lumière. Et à mettre nos valeurs, notre richesse en toi. Car là où est notre trésor, là sera notre cœur.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.